13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
AVS à votre santé, eh oui, le mois de Ramadan est un mois d'habitude, on en parlera aujourd'hui. Azaïs Calci est là, bienvenue Azaïs.
Bonjour Philippe.
Le directeur de l'IERTH, l'Institut Européen d'Études et de Recherche en Thérapie Holistique. Avec vos élèves, vous avez préparé 30 jours de menu.
On a préparé 30 jours de menu et tous les jours, sur notre page Facebook, vous aurez en fait accès à un menu qui aura été préparé tenant compte de tous les conseils naturopathiques.
Bon, voilà. Le premier jour, vous mangez des tomates, le deuxième jour, des tomates, le troisième jour, des tomates, et puis comme ça, pendant 30 jours, vous allez manger des tomates.
Après, on va nous dire qu'on est des végétaliens ou non.
Ah, c'est ce soir, c'est notre émission sur les... Ah,
d'accord.
Sur la dictature des régimes.
La dictature des régimes. Non. Tout d'abord, en fait, Mabrouk Ramadan à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour nous d'assister à cette émission pendant ce mois de jeûne qui se veut aussi en premier lieu spirituel avant d'être alimentaire.
Même si parfois, les premiers jours, le côté alimentaire des choses prend le dessus. D'adaptation, ouais. En tout cas. Ouais. Il faut prendre l'habitude de ne plus avoir l'habitude de manger à midi.
Et donc, ça, toutes les habitudes en fait, qui prennent le dessus pendant quelques jours. Et on a le corps qui va aller à la recherche de ses réserves, là où il faut aller les chercher. Donc, on a des symptômes comme la migraine, fatigue intense. Parfois, on peut même être colérique. On a aussi des émotions en fait qui nous débordent pendant ces quelques jours. À partir de là, le corps lui s'adapte. Il prend en fait maintenant acte du fait qu'il y a à peu près 17 heures de jeûne par jour. Et à partir de là, il prend acte de ce qu'il faut mettre en place. Alors moi, ce week-end, j'ai fait en fait deux ateliers sur les conseils en alimentation santé avec des enfants, des ados. En fait, non, ça partait de CM2 jusqu'à 3e. Et on a mis en place en fait deux cercles, on appelle le cercle donc alimentaire et le cercle spirituel. Le cercle alimentaire tenant compte en fait de la partie périodique en fait de ce jeûne qui commence du matin donc 4h30 jusqu'à à peu près 21h30. On a mis en fait des heures standards pour pas en fait trop rentrer dans les détails.
Complexifier les choses.
Voilà, oui. Complexifier les choses. Mmh. Et ensuite après, moi je les ai laissés. Me donner entre 21h30 et 4h30 du matin toute la démarche en fait d'alimentation santé qu'ils mettent en place. Et c'était très très intéressant parce qu'on s'est rendu compte en fait que les enfants sont peut-être parfois de meilleurs modèles que les adultes. Alors mine de rien, même si on a eu quelques cas qui disent moi je mange un sandwich grec à minuit après Tarawih parce qu'en fait il y a les sandwichs qui restent encore ouvertes.
C'est le repas officiel du matin, ça, le grec.
Le grec, d'accord.
Franchement, c'est l'officiel.
L'officiel, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que au moment de la rupture du jeûne, il ne se précipite pas. Donc là, c'était très intéressant de voir ça. Ils prennent des dattes, bon, de l'eau. Sinon, traditionnellement, ils prennent du lait fermenté ou des jus. Et puis après, ils vont faire la prière tranquillement, sans se dire, voilà, je dois manger ça, ça, ça. Et ensuite, après, donc là, quand on a donné les bases en fait, de la rupture du jeûne, qui sont quand même standards et que tout le monde connaît aujourd'hui, les dattes, et puis comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les dattes, si vous ne trouvez pas de l'eau, des dattes, prenez de l'eau parce qu'il y a une baraka dans l'eau. Et puis après, bien sûr, si on n'a pas de date, on peut prendre de l'eau et on peut prendre des jus, etc. Évitons juste une chose, je préférerais plutôt des jus que de l'eau parce que les jus, il y a quand même, c'est sucré et puis ça, c'est l'objectif aussi quand on rompt le jeûne, on est quand même en position de fatigue. Le corps, il est fatigué. Donc, bonjour Karima.
Qui arrive, voilà. Parce que aussi il y a les embouteillages. Mais quand vous parlez de jus, on parle de jus frais en fait.
Oui, de jus frais, pas de jus en fait concentré. Si possible, ça serait bien en fait d'acheter vraiment des fruits et de faire ses propres jus. c'est beaucoup mieux parce qu'on aura en fait on aura la certitude d'avoir en fait des jus qui seront assimilables par le taux de sucre et de vitamines etc que de prendre des jus où on ne sait pas en fait comment c'est fait, bon parfois c'est stérilisé et puis on sait bon voilà. Donc ça on n'entre pas trop dans le détail de ce côté là. Après bon il y a les dates et de l'eau et puis après donc arrive l'heure de la prière donc ils vont prier puis après je leur demande alors qu'est-ce que vous mangez puis là on a pas mal de régions qui se manifestent. Ça c'est intéressant. Alors chacun nous dit voilà moi je mange une soupe d'Algérie, l'autre je mange la soupe de du Maroc. Alors c'est quoi? Donc la harira, l'autre c'est le shorba. Alors c'est fait avec quoi? C'est fait avec de la tomate, avec des épices, etc. Et puis alors je dis alors est-ce que oui il y a de la viande ou pas? Ah oui mais non c'est pas possible. Ça n'existe pas une shorba ou une harira sans viande. D'accord. Donc là pas de souci. Donc on laisse et puis après il continue. Après qu'est-ce que vous mangez d'autre? Alors il y a Chebekia, donc toutes les sucreries et pâtisseries en fait aussi de traditionnelles.
Après la soupe, il n'y a rien?
Moi, je vous dis ce que.
Oh non, c'est pas possible.
Non, bah il manque une étape dans votre histoire.
Non, il manque pas d'étape. C'est parce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes chez
des gens qui sont en régime.
Non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Ils sont malades.
Les enfants sont parfois de meilleurs modèles que les adultes.
C'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai.
Et donc, là, ça s'arrête là. On va dire qu'après, ils prennent des pâtisseries, des petits briques ou des choses comme ça. Et je leur dis, donc, alors, à quel moment vous prenez votre repas? Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit, en fait, le fitra, en fait, les enfants qui parlent, en fait, avec beaucoup de d'inéité. Et on a dressé, en fait, la période, en fait, du repas, qui se manifeste de 23h à 1h du matin. Alors pourquoi à 23h? Parce que en fait, ils se laissent le temps en fait de manger un peu et ensuite après le repas qui commence ou pour certains qui vont faire tarawih commence après tarawih ou alors ceux qui ne vont pas à la mosquée, ils commencent à partir de 23h. Et 23h après une demi-heure, ils prennent là un vrai repas. Mais c'est le seul repas qu'ils prendront jusqu'au matin. Sinon, pour les autres...
Alors, quand vous dites jusqu'au matin, c'est jusqu'à 4h30?
Jusqu'à 3h. On a tous dit à peu près 3h du matin.
Oui.
3h du matin, donc, premier arrivé de...
Attendez, 23h, 1h.
Oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sortent de la mosquée minuit, pour certains minuit et demi, pour d'autres un peu plus tard. Ils prennent leur repas, le repas qu'ils n'ont pas pris en fait à partir de 23h. Et là, ils prennent leur vrai repas. Donc là, on a toute tout l'aspect culinaire et traditionnel en fait des plats, on y reviendra. Et après, ensuite, on a à partir de 3h du matin jusqu'à à peu près 4h du matin, on a en fait un autre service, si je puis dire. Voilà. C'est intéressant, non?
Ah oui, mais ça fait beaucoup de repas, votre histoire, finalement.
Mais oui. Mais c'est non, énorme. Ça fait beaucoup de repas, mais après, c'est le contenu qui est intéressant. Le premier, vous avez vu, en fait, la première partie, elle était légère.
C'est classique, oui.
C'est classique, mais donc elle n'est pas lourde. Donc ce qui permet, en fait, à quoi? Aux personnes, aux fidèles d'aller à la mosquée en toute sérénité et léger.
Léger, oui.
Voilà. Et pouvoir être concentré parce que Tarawih, c'est quand même long. Ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure. Parfois plus. Et ensuite, ils prennent leur repas. Et ce qui se passe, c'est que le repas, s'ils le prennent à une heure du matin, ça ne va pas durer plus qu'une demi-heure. Une heure et demie du matin. Et ensuite, après, ils vont se reposer. Ils se reposent jusqu'à à peu près 3h, 3h30, et là commence en fait un autre service. Mais ce service-là, il n'est pas aussi. C'est pas obligé pour que ce. Enfin, c'est pas évident pour que ce repas soit aussi lourd. Il peut être aussi léger, avec des féculents, etc. On y reviendra un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, venez en fait sur notre page Facebook de l'IRTH, et tous les jours, vous verrez en fait un repas. C'est quand même les repas types chaque jour. Parce qu'on a donné à nos étudiants le week-end dernier un travail en fait sur 30 jours. 30 repas en fait pour le l'iftar et suhoor, et tenant compte en fait de tous les conseils hygiéno-diététiques au niveau de la nature
et la culture aussi.
Et la culture, oui, c'est vrai, on a tenu compte fait de la
culture de chacun, des habitudes alimentaires,
etc.
Sans être trop on va dire catégorique.
Voilà, sans être catégorique. Et donc là, quand on a ça, on a vu en fait chez les enfants, vraiment moi j'ai vu en fait une spontanéité et une authenticité, parce qu'ils ont dit les choses telles qu'ils le vivaient. Et il est vrai qu'après, bon, alors comment font leurs vos parents, etc. Bon, c'est vrai que les, nous, les adultes, on a tendance un peu plus exagérée. Mais les enfants, mine de rien, en fait, ils ont des habitudes qui peuvent être plus, un peu plus saines. On peut considérer plus saines si on les écoutait, si on les écoute et si on les accompagne, leurs habitudes sont beaucoup plus saines que les nôtres.
Donc, mais dans votre histoire, ils ne dorment pas avant 4 heures du matin, là.
Si, ils dorment, je l'ai dit, en fait, de 1h30 jusqu'à à peu près 3h30, ils dorment 2h.
Oui,
après, c'est pas fini, parce que j'ai dit le cercle spirituel, le cercle de sommeil. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le fajr à 4h30 et ils vont dormir jusqu'à à peu près 7h30. Et là, ils se réveillent. Et on a calculé ce temps, je vous montrerai après. C'est 6 heures de sommeil. Pourquoi ? Parce que le sommeil, quand on cale le cercle spirituel, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent mettre en place, comme lire le Coran, etc. Pourtant, on parle à des collégiens, on parle aussi à des enfants de primaire, CM2. Et en fait, ils le précisent. Ils arrivent en fait de l'école à 17h. Ils se reposent jusqu'à à peu près 18h30. Donc, ils font la sieste, ils font leurs devoirs. Et ensuite, après, pour certains, ils ont une petite assise de lecture du Coran. Donc, en fait, quand on leur permet d'écrire ce qu'ils mettent en place, on voit des choses qui sont très intéressantes. Et pour eux-mêmes, c'est très intéressant parce que pour eux, ça leur permet en fait d'identifier les différents jalons tout au long de la journée. Et ça leur facilite en fait le jeûne.
Et ils ont la pêche comme Karima aujourd'hui, ou alors ils ont plus la pêche?
Ah, je sais pas, oui, aujourd'hui, Karima, là, comment ça va, Karima?
Karima, elle est restée bloquée 1h30 sur la circulation très, très, très difficile. Il y a encore la grève des CRS. J'ai cru qu'on était en état de siège. J'ai rien compris.
Ah, c'est vrai qu'il y a encore la grève aujourd'hui.
Ah, il y a les grèves, et puis, voilà, quoi. Franchement, j'ai dit, il faut que je me reconnecte à mon objectif d'arriver chez Philippe sur Beurre FM à peut-être à 5 minutes
avant la fin de l'émission.
En tout cas, j'ai écouté votre émission juste avant, les petites annonces, c'était sympa, avec Erika et Sabrina, c'était sympa.
Je crois qu'on a une émission avec elle ce week-end, d'ailleurs, ensemble. Peut-être.
Oui,
ouais,
ouais. Super, très bien.
Allez, 01 53 48 3000, on parlera des habitudes de ce mois de Ramadan. Dites-nous si, finalement, vous arrivez à bousculer, vous, vos habitudes de l'année. Qu'est-ce que vous faites pendant le mois de Ramadan que vous n'arrivez pas à faire pendant le reste de l'année? Et est-ce que ces bonnes habitudes que vous prenez, vous arrivez à les garder? Parce que ça, c'est autre chose. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Karima Chadibaou qui est avec nous, coach familial, parental et formatrice au sein de l'IERTH, l'Institut Européen d'Études et de Recherche sur les Thérapies Holistiques. Et vous êtes une grande signature du Ramadan.
Oui.
Vous nous racontez le Ramadan.
Oui,
avec des
contes.
Avec des contes qui ont des morales, on va dire.
Oui, absolument.
Et qui font changer.
Oui, et qui nous inspirent et qui nous incitent en fait à faire des changements nécessaires, profiter de ces 30 jours du mois de Ramadan, de jeûne et d'introspection sur soi. Voilà.
Aziz Kalsi, qui est le directeur de l'IERTH, est avec nous également. Alors, on parle des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude ?
Alors, une habitude, c'est... Alors moi, quand je parle d'habitude, je parle de programme, en fait. De programme dans le sens où c'est des comportements, donc des comportements ou des pensées que l'on peut avoir, en fait, et qui agissent d'une manière automatique sur nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déclencheur, en fait, dans notre environnement. Par exemple, quand je vois telle chose, je ne peux pas m'empêcher de faire ceci ou faire cela. Ou on parlait, là, tout à l'heure, sur le fait de manger rapidement. De vraiment, en fait, c'est quelque chose qui va prendre en fait une attitude, qui va prendre un pouvoir sur nous-mêmes, en fait. Et c'est quelque chose qui est installé depuis très longtemps. D'accord? Donc c'est des habitudes durant l'enfance, donc ça peut venir de notre éducation, ça peut venir de notre de ce qu'on a, de nos expériences en fait personnelles, de ce qu'on a vécu. Et donc ces habitudes s'installent et deviennent des programmes et qui se lancent en fait, je parlais un peu comme une informaticienne que je ne suis pas, qui vont se lancer en fait malgré nous. Donc consciemment parfois et inconsciemment surtout.
On est en pilotage automatique hein, comme on dit.
Absolument.
En fait, elles sont, pour être dans une démarche un peu plus physiologique, elles sont imprimées dans les muscles. Ce sont des informations qui sont imprimées, programmées dans les
muscles.
C'est pour ça que quand on fait des tests musculaires, on constate en fait que c'est programmé à telle partie du corps et on se rend compte en fait que la personne tient, c'est toujours le même bras qu'elle soulève ou alors le même tic.
Et que c'est fait sans en être conscient.
Sans en être conscient.
Et donc le mois de Ramadan, le mois de jeûne, nous permet en fait de revenir là-dessus, de mettre de la conscience et de se dire attends, c'est quoi mes habitudes alimentaires? C'est ce que tu disais tout à l'heure, Zayez, de la manière de manger, ou que ce soit au niveau culturel ou traditionnel, ou voilà, de se dire j'ai envie de changer quelque chose. Mais le changement, c'est quand même un peu difficile parce qu'il va falloir aller à contre-courant en fait de ce qu'on a l'habitude de faire.
Mais bizarrement, les gens changent très facilement d'habitude pendant le mois du Ramadan.
Parce qu'ils sont plus attentifs, ils sont plus alertes sur eux-mêmes. Comme le corps il est moins en mouvement, on a dit au départ qu'il y avait ce laps de temps d'adaptation, les trois premiers jours, les quatre premiers jours, où justement le corps commence à manifester plein de choses. Ensuite, il s'adapte. Et là, à partir de là, comme il y a moins de mouvement, donc toute l'énergie est dans la pensée, et la pensée donc prend le dessus sur le contrôle du corps, le contrôle des mouvements. Et donc là, il se rend compte, la personne se rend compte, de dire tiens, d'habitude, je faisais ça. Mais en réalité, c'est pas qu'elle faisait, c'est qu'elle s'est rendue compte en fait qu'il y a tel mouvement qu'elle ne fait plus, qu'elle fait moins. Et donc là, c'est le contrôle de la pensée sur la partie musculaire, ostéo-musculaire. Mmh.
Parce que le corps, il change vite d'habitude. Hein. Il se met au bout de 2-3 jours, il est réglé. C'est la tête qui a plus du mal, qui résiste.
Exactement.
Oui, mais c'est pas qu'il change vite d'habitude, non. C'est qu'on ne lui donne plus les moyens, parce qu'il y a le contrôle de la pensée sur la partie ostéo-musculaire, on lui donne les moyens d'agir moins. Mais quand il changera d'environnement, en fait, ce qui est imprimé dans le muscle prendra le dessus sur la pensée. Puisqu'en fait, aujourd'hui, toute l'énergie est en haut, et moins en bas. On est moins sur la terre. Donc on est plus sur la partie ciel. Donc c'est toute la pensée la pensée qui va vers le ciel. Donc là, c'est normal que le corps se dit l'esprit dit tiens, d'habitude, je bouge comme ça. Là, je ne bouge plus ou je bouge moins. Mais quand on changera d'environnement, là, c'est fini. Donc là, tout ce qui était en haut va redescendre. Et là, on va dire là, c'est le corps qui bouge. Mais comment ça se fait que j'ai repris tout de suite mon... Parce que c'est imprimé, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est programmé dans le muscle. Il faut déprogrammer. Il faut dire donc. Pour pouvoir changer vraiment d'habitude pendant le mois de Ramadan, c'est prendre conscience, en réalité, de certaines choses, pas toutes, qu'on souhaite changer, qu'on souhaite enlever. Et se dire, cette année, parce qu'en fait, il faut travailler dans le temps. Quand on ne travaille pas dans le temps, en fait, on ne fait rien. On dit, oui, je veux tout changer pendant le mois de Ramadan. Tu ne changeras rien, ce n'est pas possible.
Oh, mais les gens changent quand même pas mal de choses pendant Ramadan.
Mais justement, les plus intelligents, excusez-moi d'être aussi direct, mais si l'intelligence subtile se dit, j'identifie quelques programmes.
On va dire les plus futés.
Et quelques métaprogrammes que je vais travailler. Et là, à partir de là, ces métaprogrammes, si on les travaille, on les identifie, on les déprogramme pendant toute cette période de jeûne.
Karima,
oui.
Là, il y a une habitude là.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, je suis très mal installée. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, tu parles à Zayez d'être, on est connecté vers le ciel. Moi, j'ai besoin aussi de la terre. J'ai besoin de sentir le sol. J'ai besoin de sentir, que mon corps est bien présent et pour pouvoir être bien concentré. Voilà. Ça, c'est une habitude que j'ai, mais je la garde celle-là.
Peu d'objectifs, donc, dites-vous.
Oui, alors, des objectifs, il faut se fixer des objectifs durant ce mois de Ramadan. Alors, la plupart du
réalisables.
Temps...
Réalisables.
Oui.
Surtout réalisables.
Mais déjà, pouvoir les identifier. D'identifier des micro-objectifs, pas des macro-objectifs. Parce que sinon, moi, je dis souvent à mes élèves et aux personnes aussi que j'accompagne, quand votre objectif, il est grand, il est immense, il est beau, il est magnifique, c'est votre étoile, c'est votre grande inspiration. Mais le problème, c'est que pour arriver à l'étoile... on n'a pas forcément tout le bon appareillage pour y arriver. Donc, il va falloir commencer à travailler à partir de la plus petite chose que je peux changer et qui est sous mon contrôle et de ma responsabilité pour pouvoir arriver vraiment me rapprocher de cette étoile. Donc, découper le mammouth, comme on dit. Pour manger un mammouth, il faut le découper en petits morceaux. On ne peut pas le manger comme ça en entier, n'est-ce pas?
Si on a faim...
Si on a faim, on va quand même prendre des bouchées peut-être un peu plus grosses. Mais on va quand même y aller étape par étape.
On va découper le mammouth.
On va découper le mammouth, voilà.
En te regardant, je pensais à une chose.
Au mammouth
oui.
Non,
oh
non, 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 non.
Oh, Philippe.
Je pensais à son sourire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que parmi les micro-objectifs dont tu parles, c'est déjà des premiers mouvements, en fait, du corps. Et le premier mouvement, c'est le sourire.
Oui.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gens, en fait, quand ils se réveillent ou quand ils font l'Iftar, ils sont déprimés.
Ils sont au bout de leur vie.
Je crois que c'est l'expression qu'on entend le plus pendant le mois de Ramadan, c'est je suis au bout de ma vie.
Oui.
Ah, franchement. Élu expression du mois de Ramadan.
Mais moi, vous savez comment je l'interprète, moi, cette phrase? J'en parlais la dernière fois avec Azayez. Je suis au bout de ma vie, ça veut dire ça y est, je suis au bout du tunnel, là. Ça y est, j'y arrive et je vais voir la lumière.
Ah, c'est ça que ça veut
dire. Voilà. Pour moi, ça veut dire ça.
C'est bien. Mais c'est bien cette définition parce que peut-être que ceux qui nous entendent maintenant vont
oui, de toute la journée, quand voilà. Je vois mon
12h31,
fils,
non, ouais. Vous n'êtes pas encore au bout de votre vie, je dis tout de suite.
Non,
là, vous êtes à, au milieu,
moitié,
là.
On est au quart, je crois. Ou...
Exactement.
Oui. Donc, découper le mammouth, bien sûr. Prendre des petits objectifs, des micro-objectifs. Tu parlais de sourire. Oui, et c'est pas pour rien qu'on utilise aussi beaucoup le sourire en méditation. Quand on fait de la méditation transcendantale, on visualise à l'intérieur nos organes sourire à la vie. Absolument. Et je souris à la vie, même quand c'est difficile. Ben oui, on a 30 jours de mois de jeûne, 30 jours difficiles. Aujourd'hui, il fait très chaud. On va peut-être un peu souffrir enfin, en tout cas, moi, j'ai eu soif dans la voiture. Il faisait très chaud. J'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. L'énergie est spéciale. OK, qu'est-ce que je me fixe aujourd'hui comme objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Où je veux arriver? Comment je veux me sentir? Et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Voilà, moi, c'est les questions. C'est-à-dire se raccrocher à ce sens. Je reviens à ce que tu disais, Azayez. On est connecté au ciel, oui, c'est ce qui donne du sens dans nos objectifs. Si on veut évoluer durant ce mois et pas en faire un énième mois de Ramadan où on va avoir plein de belles résolutions comme en fin d'année ou en début d'année, n'est-ce pas? Où on va dire, ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais me transformer. Oui, mais attends, avant de te transformer, c'est comment il est ton voyage et qu'est-ce que tu emmènes avec toi dans ce voyage? D'abord, tu fais l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Mes habitudes, ces habitudes, celles que j'ai envie de changer, les plus grosses, les plus compliquées, les plus, les plus compactes. C'est déjà comment je peux réussir à mettre un peu de mou, un peu de jeu là-dedans déjà. Et c'est ça qui va vraiment nous aider à dire ouais, là ça fait 8 jours de jeûne. Dans ces 8 jours, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Comment je me sens et comment je veux vivre les 8 prochains jours? Et pas de se dire à la fin du mois de Ramadan, je veux sortir, je veux connaître les Stinhizb du Coran, c'est-à-dire les 60 chapitres du Coran. Je veux avoir jeûné mais avec aucune mauvaise pensée, avec aucune tentation, aucune... Non, il faut arrêter.
Je veux jeûner, je prendrai tous les repas sans viande.
Oui, par exemple, je veux tous les repas sans viande.
Que des tomates tous les jours.
Oui. Philippe le regarde avec un regard...
Là, vous avez vu un regard mauvais.
Oui. Donc, fixer ses objectifs, c'est important. Même
tous
si
vos
vous avez
repas
passé
sans
au début,
viande.
Tous vos repas sans viande. Je pense que le chef voilà serait pas très content. Si
mais non, mais même, le docteur de la boue, vous tombez dessus.
Mais c'est pas grave.
Non, mais tous vos repas, pas de viande pendant tout le mois.
Là, tu vois, là, il veut qu'on rebondisse sur ça.
Alors,
non.
Il veut.
Faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Encore, Azaïs. Si vous voulez manger, parce que ça dit, je vois que vous avez remplacé les tomates par. Par de la pastèque. Si vous voulez, pastèque, c'est très très bien.
Non, en fait, c'est pour ça qu'il faudrait regarder nos recettes tous les jours sur notre page. Ce sur quoi on a travaillé, c'est surtout en fait les formes de digestibilité et les viandes. Il y a différentes sortes. Parce que j'entendais le chef voilà dire, mais le Coran parle de la viande, oui, mais le Coran n'est pas venu aussi avec un traité de boucherie, ni un traité de charcuterie, encore moins d'astrophysique.
Vous le cherchez.
Ni un traité
vous
de
le cherchez.
Médecine.
Alors là.
Non, avec tout le respect que je lui dois. Parce que j'ai déjà mangé en fait dans ce restaurant et c'est délicieux. Donc pour vous dire, il cuisine très bien et c'est bon. Donc de ce côté-là, non, c'est juste je reprends cette expression. Ce que je veux dire ici, parce que souvent on dit non, mais le Coran a dit. Le Coran, oui, mais il n'est pas venu avec un traité où il a décrit toutes les viandes. Et le docteur Dabo sera d'accord avec moi. Il y a différents types de viandes avec des formes de digestibilité différentes. On a plus opté pour le veau. Qui est plus digeste que le bœuf, plus digeste que le mouton, plus digeste, etc., etc. Et faire en sorte que même si on prend du poisson, on prendra ce type de poisson-là, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut appliquer ce qu'on dit.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Et en plus, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas manger de viande. Là, on a dit, voilà, si vous devez manger une viande, mangez dans cet ordre, c'est mieux. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure pendant la publicité, c'est vrai qu'il faut faire très attention à une chose, c'est qu'on tient compte en fait des personnes qui ont des habitudes, c'est ce qu'on vient de dire, mm-hmm. ils préfèrent manger leur repas après Tarawih, ils mangent très peu pendant le matin, mais là où c'est une réalité, c'est qu'il vaut mieux avoir son repas pendant Suhoor et avoir un repas léger pendant entre le Maghrib jusqu'à 1h du matin ou 3h du matin, parce que ici il y a la détoxication hépatique, donc il y a plein de choses qui se passent au niveau du corps et on inhibe tout ça. Donc on mange le matin, mais on mange le matin aussi, là on a travaillé aussi sur des formes de digestibilité, si on doit prendre protéines avec des légumes, si on doit prendre en fait aussi des féculents, on prend avec une protéine la plus digeste possible, et etc, etc. Donc c'est ça qu'on va vous dire, et donc là oui, je mange des pastèques mais je mange aussi de la viande. C'est bon, est-ce que j'ai répondu à votre...
Non, j'ai pas vu la viande sur votre table. Voilà. Non, mais voilà,
Manu.
Après, encore une fois, Azaïs.
Un sacrilège, j'adore. Ah non, mais j'adore.
Bah oui, mais c'est. Vous avez raison, c'est très bon la pastèque, c'est délicieux. On retrouve vos menus où, Azaïs, pour tous ceux qui veulent manger de la pastèque pendant... Moi, je vous le fais, 30 jours, 30 pastèques tomates, allez.
Mon Dieu, vous allez disparaître.
Hein, oui,
vous allez disparaître.
Mais pas du tout. Non, par contre, c'est magnifique.
Transformé en eau.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Donc là, sur notre page Facebook, la page de l'IRTH, IEERTH, et tous les jours sera affiché le repas de l'Iftar avec l'Iftar avec le repas plus le repas de Suhoor. Et donc tous les jours jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Mm-hmm.
Bon, moi dimanche, j'ai fait 15 km à vélo pour aller chercher les tomates vertes de madame Mamoun. Green Zebra.
Bon,
pour trouver des tomates, c'était compliqué parce que c'était le week-end de Pentecôte et finalement tout était fermé.
Ouais,
c'était pas facile de trouver les tomates. Mais bon, la pastèque c'est plus simple.
Oui, la pastèque.
S'il y a que ça pour vous faire plaisir, la pastèque je peux en trouver très 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 facilement. C'est plus facile. Allez, on parle des habitudes du mois de Ramadan jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Composez le 01 53 48 3000. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.
Voilà, c'est vrai que le mois de Ramadan est un mois où on change les habitudes. On en parle avec Karima Shadi Baou et Azaïs Kalsi ce matin. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que finalement, pendant le mois du Ramadan, la vie n'est pas vraiment la même.
Oui.
Elle change.
Absolument.
Donc, les habitudes changent, les horaires changent. Et les gens, finalement, se moulent bien dans cette vie-là. Pourquoi du jour au lendemain, à partir du moment où c'est fini, c'est terminé ? Plus d'habitudes et la vie reprend le dessus, mais comme si ça n'avait jamais existé.
Parce que le Ramadan, c'est un mois de nouvelles habitudes. Et quand le mois de Ramadan est parti, ça y est, je reprends mes anciennes habitudes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a comme un programme, le programme spécial Ramadan, où on sait qu'on va changer certaines choses, nos habitudes alimentaires ou pas. Mais en tout cas, on ne mange pas à la même heure et on va faire...
Mais on ne mange pas les mêmes choses, déjà.
Et on ne mange pas les mêmes choses, exactement. Exactement. Dans certaines familles...
On ne mange pas du tout les mêmes choses que le reste de l'année.
On mange plus que le reste de l'année, parfois.
Oui,
pour certains.
Oui, pour certains. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on on se programme pour accueillir Ramadan, pour avoir un comportement spécifique au mois de Ramadan, une nourriture spécifique au mois de Ramadan. Le jour de l'Aïd, ça y est, c'est passé.
Il y a une question qu'on pourrait poser. Comment faire perdurer le Ramadan ?
Oui, ben ça c'est une question qu'on pose très souvent. Quand on écoute les
khutbas,
voilà, il y a les 6 jours de Shawwal, mais quand on écoute les khutbas du jour de la célébration de l'Aïd, tout le monde dit, l'imam, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Comment maintenant, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, toutes les bonnes habitudes, toutes les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes qu'on a mis de côté, maintenant comment faire pour perdurer ? Il faudrait un autre mois de Ramadan, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement installer ses habitudes. Ça suffit pas. Ça veut dire qu'il faut rester connecté au sens, d'accord, et rester connecté à son pouvoir d'agir. Pendant le mois de Ramadan, j'ai le pouvoir d'agir. Pourquoi ? Parce que je suis portée par la foi, je suis portée par... c'est un des piliers de l'islam, donc c'est quelque chose qui est fondamental et qui est important. D'accord ? Je suis en train de réaliser et d'honorer en fait des valeurs à travers ce jeûne. Mais quand, une fois qu'il est terminé, je suis plus obligée, je reste plus connectée à ça. Normalement, on devrait profiter de ces moments-là pour se connecter encore plus. D'accord ? Mais une fois que le Ramadan est parti, ça y est. Et puis d'ailleurs, tout le monde est triste, hein, ça y est, notre invité est parti. Il y a des gens qui ont peur, qui disent ça y est, je vais redevenir un monstre. Mais je t'assure, tu rigoles, mais il y a des personnes qui me disent ça.
En fait, pour prolonger ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe en fait pendant la période de jeûne et pendant ce mois particulier, on rencontre de nouvelles personnes. Personnes qu'on ne rencontrait pas avant.
C'est vrai, mais c'est vrai en plus. C'est, c'est un mois où on rencontre de nouvelles personnes.
Et parfois, dans ces belles rencontres, il y a de belles rencontres.
Oui.
Pour pouvoir, un des éléments de réponse, c'est peut-être pas la réponse, mais un des éléments de réponse, on en avait déjà parlé en fait sur ce plateau, un des éléments de réponse pour faire perdurer cette période de jeûne, c'est de conserver ces belles rencontres. Parce que la compagnie, la bonne compagnie, permet justement de rester conscient de ces petits, de ces micros objectifs qu'on a essayé d'atteindre. Donc, et ça c'est important parce que si on prend pas conscience, si on reste pas connecté à cette conscience, comme tu l'as dit, on perd pied. Mais la seule façon de pouvoir garder, c'est aller à la recherche des personnes qui vont nous aider en fait à maintenir cette prise de conscience.
Oui.
Et donc ces belles rencontres.
C'est important d'être bien entouré, en fait.
C'est la question aussi quand on pose des objectifs dans certaines écoles, quand on travaille sur, notamment en développement personnel, sur la fixation d'objectifs, pour savoir où tu vas, et ben, c'est la question, en fait, de tes alliés. Qui tu vas prendre comme allié, qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va t'accompagner dans ces nouvelles habitudes, dans ces nouveaux choix. Si, par exemple, c'est ce qu'on fait aussi quand on travaille sur les addictions. Quand, par exemple, quelqu'un est addict, ben, à la cigarette ou à une substance ou quoi que ce soit, on va lui dire déjà de quitter, de rompre déjà avec les personnes qui sont qui prennent aussi ces substances et toutes ces choses-là, de dire voilà, pour changer justement d'environnement, parce que l'environnement c'est la chose sur laquelle on peut avoir aussi du pouvoir. J'ai peut-être pas du pouvoir sur mes pensées pour changer mes habitudes, d'accord, mais je vais quand même avoir, et j'ai la porte d'entrée de l'environnement et du contexte et des gens que je vais mettre autour de moi qui vont pouvoir m'aider à maintenir. Déjà, avant de maintenir, à changer déjà, et ensuite maintenir le changement. Donc ça, c'est important. La question des... Et souvent, quand on pose des objectifs, on ne se pose pas la question qui va m'aider ou qui va me mettre les bâtons dans les roues. Qui va être un obstacle à mon changement? Par exemple, si je décide de bannir la viande à la maison, et que je ne mange plus de viande, et si j'ai un mari ou des enfants qui sont carnivores et qui adorent ça, ça va être compliqué.
Tu veux dire, maman, t'as fumé la moquette.
Oui.
Et ils auront raison.
Oui.
Ils auront raison. Ben oui, parce qu'en fait, même quand tu veux amener quelqu'un à un changement, tu aussi participes, tu les fais participer à ce changement.
Oui.
Et toi aussi, tu participes aussi, en fait, un peu à leurs mauvaises habitudes pour les amener au changement. J'aime rappeler, en fait, l'anecdote de la Hijra quand les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis de la Mecque à Médine. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine? Il a créé des binômes.
Oui.
Et ça, c'est beau. On voit déjà que tu ne peux pas changer tes habitudes, même t'installer dans un nouvel environnement si tu n'es pas accompagné avec quelqu'un. Et donc, c'est important de trouver là où les personnes avec lesquelles tu vas pouvoir, ou laquelle tu vas pouvoir en fait échanger et aussi se maintenir en place et puis aller après aller côtoyer d'autres personnes. Parce que c'est un mois où il y a de très très belles rencontres et on ne s'en rend pas compte. En fait, c'est des belles rencontres. Et des rencontres parfois même où il y a un lien qui reste en fait indéfectible pendant très longtemps.
Bien, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu et ça fait plaisir de lui parler pendant ce mois de Ramadan. C'est Amadou de Grenoble. Bienvenue Amadou et bon Ramadan.
Bon Ramadan à vous aussi Philippe, merci de m'avoir passé la parole. Effectivement, j'ai entendu, j'interviens sur ce truc-là parce que Allah, notre Seigneur, nous a dit, tu es mon serviteur, donne-moi ton cœur. Effectivement, il y a l'esprit qui a le pouvoir sur le corps, mais avec la tension, après le Ramadan, il n'y a que Dieu seul, et comprend, même le mois de Ramadan, c'est Allah qui nous aide. C'est l'adoration d'Allah. Si sans l'aide d'Allah, on n'arrivera pas.
Exactement.
Parce qu'on a des ennemis, l'esprit du moi, l'esprit a le pouvoir, l'attention. Tout ce qui attaque cette attention peut te détourner. Donc c'est pour ça que la communauté religieuse, elle est là pour l'accompagnement. C'est pas que je revendique le communautarisme. Chaque religion a sa communauté. Voilà. Sa traduction. Et une bonne continuation à vous. Merci. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah accepte nos aides.
Merci Mamadou.
Merci
Amadou de Grenoble.
Amadou, merci beaucoup.
Amadou de Grenoble. Barakallahu fik.
Ramadan Karim à vous.
Auditeur VIP de Beurre FM, Amadou. Merci, bon Ramadan Amadou. Alors.
Oui, c'est une réalité parce qu'on oublie, c'est pas qu'on a oublié, on l'a dit sans le dire. Toute la partie spirituelle de Ramadan, puisque c'est Dieu qui rétribue en fait qui donne la récompense de ce mois de jeûne. C'est personne d'autre, c'est Dieu. Il est pour moi. Donc ça montre quoi? Ça montre en fait que Dieu, il a mis en place toute une ambiance spirituelle pour favoriser l'atteinte de certains micros objectifs ou de grands objectifs. Charge à nous de prendre en fait l'objectif à bras le cœur, le grand, celui de Ramadan, pour atteindre justement ce sur quoi on veut aller, ce vers quoi on veut aller.
C'est absolument. La chose en fait sur laquelle moi je vais insister, c'est que en arrivant dans le grand objectif, le macro objectif, si on y arrive par des petites choses, des toutes petites choses. Si par exemple j'ai l'habitude de me réveiller le matin et d'être grognon et d'être, je vais déjà commencer à dire commencer à changer ça peut-être, par se dire je vais commencer à me dire ça va être une journée longue encore aujourd'hui, la météo il fait chaud, j'ai plein d'allers-retours à faire. Et ceci et cela, bref, plein de corvées, de se dire, mais là-dedans, j'ai ça, c'est vrai, oui, c'est une réalité, et en même temps, je peux aussi sourire à ça, et d'explorer une nouvelle manière de vivre ça, de m'ouvrir l'opportunité de dire, je peux peut-être le vivre autrement et pas rester focalisé sur, purée, ça va être une journée de fou encore. Oui, une journée de fou, mais où je vais rencontrer des belles personnes. Une journée de fou où je vais peut-être découvrir quelque chose sur moi, sur les autres, sur plein de choses. Et d'être curieux, en fait. Vraiment, vraiment être curieux.
Positive attitude, en fait.
Oui.
C'est la notion de l'hakim, un des attributs divins. C'est de voir en chaque chose une belle chose. Même si parfois notre regard voit quelque chose qui peut être répréhensible, mais on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière comme enseignement?
Oui.
Et c'est une belle chose qui arrive, une belle chose que j'observe en réalité. Donc ça, c'est le hakim, c'est cette sagesse absolue, la sagesse infinie qu'a Dieu, mais aussi c'est un des attributs, en fait, qu'on peut s'approprier dans chaque chose que j'observe, chaque chose que je vis. Il y a un enseignement à tirer et il ne peut être que belle.
Absolument. Et même quand on n'y est pas arrivé à la fin de la journée, on se dit, oh là là, j'avais prévu de lire tant de chapitres, j'avais prévu de faire de tant de dics, j'avais prévu de donner telle ou telle chose, de faire. Et puis du coup, on arrive à la fin de la journée et on se dit, j'ai rien. Finalement, j'ai même pas atteint les 50%. Moi, j'aime bien, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je pratique déjà pour moi. Je me dis, ok, c'est pas la journée rêvée. J'ai pas pu réaliser tout ce que j'avais envie ou imaginé ou visualisé. Mais il y a quand même peut-être... J'ai quand même fait ça. Il y a quand même peut-être 2% de sagesse dans cette journée. C'est quoi ces 2% de sagesse qui vont pouvoir m'aider? Et puis peut-être, qu'est-ce que je vais pouvoir changer pour le lendemain? D'accord. Et pas se retrouver dans... une espèce de routine.
Je prolonge en fait ce que tu dis. Donc, c'est ta vision. Une autre vision qu'on peut aussi dire, c'est, tiens, tous les jours, je lis 50 pages du Coran. Aujourd'hui, je n'ai rien fait. Tiens, Dieu, par sa grandeur et sa majesté, veut de moi aussi que j'apprenne le repos.
Ah oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi.
Ouais, parce que moi, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas une divinité.
C'est de la procrastination, vous voyez.
Quand ça se répète. Si ça se répète, c'est dire, demain, je lirai les 50 pages. Demain, 51 pages, 52 pages.
On fonctionne tous à peu près comme ça, quand même.
On est
toujours en train de négocier.
Une des questions de l'objectif, c'est être réaliste. C'est je fais avec ce que j'ai.
Que ce soit réaliste.
Et pas m'imaginer que je suis... j'ai pas l'habitude. Je suis une grosse dormeuse. J'aime dormir. Et dire, ça va être là, je dors pas. Non, j'y vais. Je vais dire, je vais peut-être dormir qu'un petit peu ou diminuer le temps de sommeil. Quelque chose qui soit adapté et qui soit aussi approprié à qui je suis et à mon mode de fonctionnement.
J'ai une anecdote. Moi, j'ai Marwa, quand je vais la chercher à l'école, toujours, en fait, elle a une attitude maussade, comme ça, triste. Elle sort de l'école. Je lui dis, mais pourquoi tu es triste? Je comprends qu'en fait, elle est dans une école où tous les jours il y a des contrôles. Je lui dis, je te donne un exercice. Quand tu me vois, tu souris. Et depuis, elle sourit.
Ah,
je lui dis, comment tu te sens quand elle monte dans la voiture? Elle me dit, je me sens très bien. Je lui dis, voilà.
Très bien.
J'ai réussi mon exercice.
Oui. Sourire à la vie. Voilà.
Bien. Ça sera notre objectif du jour. Absolument. Sourions à la vie. Merci à tous les deux d'avoir été avec
vous.
Nous. Tiens, on va parler de viande demain avec le docteur de labo Azaïs, vous êtes le bienvenu.
Ce soir,
il n'y a pas le docteur de labo ce soir. Ce soir, il y a d'autres gens. Vous avez vu déjà le comité. Était là, donc on vous attend dehors. Merci d'avoir été avec nous et très bon Ramadan sur Beurre FM.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000.